lieux de l'histoire en Pays de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vais vous faire découvrir les hauts lieux de l'histoire des Pays de Savoie. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie, qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des Pays de Savoie, et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder l'identité savoyarde. Aujourd'hui, ce lieu dont je vais vous parler est le Thioux, une rivière emblématique d'Annecy. Annecy doit bien entendu sa réputation à son lac, le plus pur d'Europe, mais une toute petite rivière confère aussi à la ville un charme indéniable. D'une modeste longueur de 3,5 km, le Thioux, déversoir naturel du lac, reste en effet depuis longtemps très cher au cœur des Annéciens. On en attribue l'aménagement aux Romains, vainqueurs des Allobroges, qui nomment la cité Boutaë. Après des invasions barbares, des périodes troubles en tout genre, après les épidémies de peste et les incendies, Annecy le Nouveau s'établit sur les rives du Thioux. Une maison forte, aux allures de galère, remontant le courant, est édifiée sur un des îlots. Tour à tour, prison, demeure princière, palais de justice, atelier monétaire, chambre des comptes, bureau du cadastre, asile pour vieillards, caserne, le palais de l'île de nos jours est lieu d'exposition sur l'architecture et le patrimoine local, ouvert au public et copieusement mitraillé depuis le pont des Halles, par les photographes en provenance du monde entier. Mais revenons à la rivière. L'une des plus courtes de France, selon certaines sources, le Thioux devrait son nom à un mot d'origine « tir », signifiant « rivière », tandis que d'autres effectuent simplement un parallèle avec « petio » ou « petiou ». Quoi qu'il en soit, notre cours d'eau endure pendant des lustres les caprices du lac, les fortes inondations. On se déplace, on se rend visite en barque et l'on peut voir encore, aujourd'hui, sur les façades, quelques anneaux d'amarrage. Le Thioux coule ensuite sous le pont Morand, le plus vieux pont de pierre d'Annecy, passe sous celui de Bacchus, sans doute ainsi dénommé en souvenir d'un riverain porté sur la boisson. Malgré les intempérances du lac à l'origine d'importants dégâts, les rives du Thioux abritent depuis le Moyen-Âge des activités humaines de toutes sortes, utilisant la force bon marché du courant. Moulins à farine, moulins à écorce de chêne pour extraire le tanin destiné aux ateliers de cuir, scierie, forge, d'où sortent des couteaux, épées, limes ou ciseaux, mais aussi une manufacture de coton et une papeterie. D'ailleurs, ces deux fabriques marquent pendant longtemps la vie économique et sociale d'Annecy, comme celle d'un hameau voisin, Crangevrier. En 1804, Jean-Pierre Dupont ouvre en effet une manufacture qui emploie près de 500 ouvriers, hommes, femmes, enfants, lesquels filent le coton, teignent, tissent, draps et étoffes. La centaine de métiers étant actionnés par une roue hydraulique d'un diamètre de 25 mètres, l'établissement est éclairé au gaz tout d'abord, à partir de la houille d'Entreverne, puis grâce à l'usine à gaz d'Annecy. Au fil des années, plus d'un millier de personnes bossent jour et nuit dans l'usine où les conditions de travail à l'époque sont déplorables. À cet égard, Mgr Louis Rendu, évêque d'Annecy, fait réaliser sur place des enquêtes par les curés de son diocèse et en 1845 adresse à Charles-Albert Ier, roi de Sardaigne, prince de Piémont et duc de Savoie, un mémoire dans lequel il dénonce la misère du prolétariat industriel, celle des enfants chargés le plus souvent au sein de la manufacture de rattacher les mèches ou les fils cassés, trimant 15 heures par jour et qui sont roués de coups pour un oui ou pour un non. Le souverain oppose une fin de non-recevoir au prélat que la bonne bourgeoisie locale regarde d'un mauvais œil. De son côté, la famille Osda, originaire de l'Ardèche, exploite au bord du Thioux, à partir de 1801, une papeterie artisanale qui devient vite industrielle. Plusieurs générations se succèdent au sein de l'entreprise, célèbre pour ses fabrications haut de gamme, notamment dans le domaine de l'édition qui emploie des centaines d'ouvriers, mais devra cependant fermer ses portes en 2006. Entre-temps, le cours de l'émissaire du lac est régulé par un ingénieux système de vannes conçu par Sadi Carnot élu président de la République française en 1887, avant d'être assassiné à Lyon 6 ans et demi plus tard par un anarchiste italien. La petite rivière non navigable, nourrie par le canal Vassé, à l'entrée duquel est construite une passerelle piétonne baptisée Pont des Amours, offre au regard des visiteurs des quais toujours propres, asphaltés, enguirlandés de géraniums à la belle saison, débordant de cafés, de restaurants, de boutiques, souvenirs. Les coups de battoir des lavandières se sont tus et le tourisme règne en maître à longueur d'année. Une famille de colverts et son chapelet de canetons, quelques cygnes glissent sur le Thiou qui coule sous les ponts fleuris de la Venise savoyarde, où défilent en masse les vacanciers un peu plus loin, au bord de lac. Des arbres s'inclinent au passage du cours d'eau qui gagne la largeur et joue à cache-cache avec l'urbanisation. Disparaît sous la chaussée, sous les immeubles serrés, les uns contre les autres, réapparaît à cran gevrier une cheminée de briques et une roue à auger évoquant les activités industrielles d'antan. Retrouve l'air libre, épouse un peu plus loin le torrent du Fier, né dans la chaîne des Aravis, au pied du mont Charvin, et qui s'en va grossir le Rhône. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Cette chronique est tirée d'un livre de Pierre Hoffmann, Au lieu de l'histoire en pays de Savoie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et surtout, à une prochaine fois.